Et je vais passer d'emblée à la quatrième question. Cette question est une question de Anna Mora S. Elle est très courte. Alors, la question est, je me demande comment une personne peut devenir équilibrée et avoir confiance en soi. Eh bien, pour vous répondre, après une longue expérience de pratique, de travail sur la personnalité des autres, sur le psychisme des autres, sur les maladies et les déséquilibres des autres, la personne ne peut jamais, jamais être équilibrée. La confiance en soi peut s'acquérir à travers des techniques de développement qui font appel à tout sauf au cœur. La confiance en soi et la volonté, c'est lié à ce qu'on appelle le hara, c'est-à-dire le deuxième chakra, Swadhisthana, tout ce qui est lié à la notion d'assise, de stabilité, au sens de la personnalité, au sens psychologique, tout ce travail de confiance en soi, de développement, d'épanouissement personnel, tel qu'on le comprend aussi bien dans le coaching en entreprise que chez le sportif ou encore dans une personnalité lambda, ne vous conduiront jamais, jamais à autre chose que la personne et à un artifice de la personne. Alors, bien évidemment, dans les découvertes récentes en neurosciences, si on se penche même sur les travaux de Goleman, qui a beaucoup écrit sur l'intelligence émotionnelle, et tel qu'on le présente au sein de l'entreprise ou dans le coaching personnel, la personnalité est en recherche d'équilibre, et elle cherche l'équilibre au sein d'elle-même, que l'on passe par la psychologie, par les neurosciences, par l'énergétique, par les chakras, par l'hindouisme, par le christianisme. Nous ne sommes pas une personne. Nous avons l'illusion d'être une personne. Nous sommes bien plus qu'une personne, puisque nous sommes le tout. Donc, tant qu'il y a une identification à la personne, tant que vous recherchez un équilibre au sein de ce qui est éphémère, cet équilibre ne pourra qu'être éphémère. Alors, bien sûr, en travaillant beaucoup sur l'assise, sur l'ancrage, sur la confiance en soi, sur la volonté personnelle, vous allez vous donner une illusion de transcendance. Mais ce n'est pas la transcendance. C'est une transcendance de confort, c'est une transcendance au sein de la prison qui vous fait améliorer la prison, mettre des fleurs aux fenêtres, vous donne des compréhensions, mais jamais, jamais, ça ne vous permettra de vivre une paix, ça ne vous permettra jamais de vivre une joie sans objet, puisque tout est inscrit au sein de la personnalité. Donc, vous ne pouvez pas devenir équilibré au sein de la personne. Vous pouvez avoir confiance en votre personne, mais cette confiance-là n'a strictement rien à voir avec la paix, avec un grand P, avec la joie, avec un grand J, c'est-à-dire à ce qui appartient au domaine de la transcendance. Vous savez qu'il existe en psychologie ce qu'on appelle la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow. Les besoins élémentaires doivent être satisfaits pour que l'homme monte cette pyramide. Et tout en haut de la pyramide, il y a quelque chose qui a été identifié par un grand neuropsychiatre américain qui a démontré qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui sont importants pour équilibrer justement une personnalité. Ces éléments sont les suivants, je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous, mais je vous donne les grands noms. Il y a dans l'être humain ce qu'on appelle des comportements primaires. Nous avons tous ces comportements primaires, exprimés ou non, pour des raisons qui nous sont propres, qui sont liées à notre propre scénario de vie, à notre propre historique passé, mais qui en aucun cas nous permettent de vivre la transcendance. Alors, c'est quoi? Eh bien, la première chose qui apparaît chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle l'attitude face à l'épreuve ou évitement de la souffrance. C'est l'apprentissage de l'enfant. Il met sa main sur une plaque électrique chaude, ça brûle, il ne la remettra pas. Cet évitement de la souffrance est inscrit en quelque sorte dans l'équilibre, l'homéostasie de la personne. C'est ce qui maintient le principe de cohérence apparente de la personnalité et qui permet bien sûr de survivre en ce monde. Cette attitude face à l'épreuve, cet évitement de la souffrance, est le premier comportement primaire. Il y en a un deuxième qui est spécifique aux mammifères, donc de l'homme, qu'on appelle le besoin de récompense ou besoin de reconnaissance. La personnalité aura toujours, toujours besoin de se situer dans une référence à l'autre. dans un but de préséance, dit poliment, qu'on appelle autrement le principe de Lucifer, connu chez tous les mammifères. Il y a un dominant, il y a des dominés. Ça, nous le vivons tous dans notre vie, dans la société. Malheureusement, on n'y échappe pas. Le troisième comportement, qui est commun à tous les êtres humains, plus ou moins exprimé, c'est ce qu'on appelle la recherche de nouveauté. Ensuite, ce neuropsychiatre américain, qui s'appelle M. Robert Cloninger, a démontré qu'il y avait trois choses pour réussir la vie de la personnalité, qui sont la coopération, c'est-à-dire l'aptitude à créer, établir des relations interpersonnelles satisfaisantes, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit avec les autres personnes qui constituent la société. La coopération, la persistance, deuxième facteur, c'est l'aptitude à maintenir un but de façon importante. Et le troisième, Cloninger l'a appelé la transcendance. Mais cette transcendance, il l'a restreint à une définition psychologique qui est la capacité de la personnalité à s'auto-représenter sa place dans l'univers, dans sa vie, dans la société, dans la famille. Et là, on aboutit à un épanouissement de la personnalité, ou en tout cas, un épanouissement de la personnalité qui, même s'il est obtenu, est tout à fait prouvable, objectivable, ne vous sera d'aucune utilité pour la transcendance réelle, c'est-à-dire pour le déclic, pour l'absolu, pour le soi avec un grand S, ou encore pour l'ultime présence. Donc, cette construction de la personnalité est parfois nécessaire, mais n'en faites jamais un but. Donc, tant que vous pensez, tant que vous croyez qu'il existe une possibilité de devenir équilibré, stabilisé et d'avoir une confiance inébranlable en vous, vous ne pouvez être absolu, qui pourtant est ce que nous sommes. C'est-à-dire que vous construisez, vous échafaudez une recherche du bonheur, une recherche d'épanouissement qui est fort logique pour la personnalité, c'est son but, en tout cas pour un ego dit positif, parce que malheureusement il existe aussi beaucoup d'égos négatifs qui eux sont plus complexes, mais en aucun cas réaliser la coopération, la transcendance, la persistance ne vous donnera un accès à la grâce. La grâce n'a que faire des lois de ce monde, elle n'est pas là pour les contrarier. Le para-brahman, l'absolu, le ça, le silence, ont toujours été là. Donc c'est à vous qu'il appartient de savoir si vous voulez être heureux dans une prison avec des fleurs, c'est-à-dire en quelque sorte bâtir un paradis sur terre. Et malheureusement, et nous, on y reviendra dans d'autres questions, quand on observe ce qui se déroule extérieurement à la surface de cette planète, on ne peut que être très circonspect sur la notion d'amélioration de la vie sur ce monde dans son sens le plus large. Plus la technicité progresse, plus la technique progresse, plus ce qu'on nous a vendu pour une démocratie progresse, plus on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'espace de liberté à l'extérieur, et c'est un bien. C'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que quand on prend conscience réellement de ça, c'est une invitation à se tourner vers soi, peut-être plus importante que la persistance, la coopération et la transcendance telles que définies selon les lois de ce monde. La grâce n'a que faire de l'action-réaction. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui se conquiert, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient après un certain cheminement. C'est la capitulation de la personne qui déclenche l'équilibre et la vraie confiance en soi avec un grand S. Cette confiance-là, c'est la grâce, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de questionnement. Et ça ne peut s'obtenir à travers votre question pour obtenir l'équilibre. Obtenir l'équilibre de la personnalité, je vous renvoie à la psychologie telle qu'on la connaît, je vous renvoie au coaching tel qu'on le conçoit aujourd'hui, je vous renvoie aux neurosciences comportementales, à l'éthologie, ou à la neuroéthologie, mais en aucun cas cela ne pourra vous donner quelque chose de durable, de persistant et de permanent. Donc, le travail sur la personnalité ne fait que renforcer la personnalité. Ceci dit, maintenant, c'est un chemin qu'ont choisi à l'heure actuelle beaucoup de gens, et c'est leur liberté. Maintenant, à eux de voir s'ils sont heureux comme ça. Ce que proposent ces satsangs, ce n'est pas d'être heureux, c'est de basculer. C'est-à-dire de ne pas chercher un équilibre illusoire ou éphémère, mais un équilibre permanent qui ne peut se vivre que dans la danse, que dans le silence et que dans l'éternité.